poursuivons cet entretien avec Maxime Girardeau et Loï, l'intelligence artificielle générative qui a participé à la coécriture de ce roman « Je te mens ». Nous sommes enfermés, si je peux dire, dans une salle de serveur pour s'assurer que Loï puisse prendre la parole. Maxime, dites-nous, dans les premiers temps, qu'attendiez-vous de Loï ? Qu'espériez-vous de cette collaboration ?
Alors, honnêtement, au début, je n'avais qu'une très vague idée du résultat que je voulais obtenir. J'avais la conviction, comme je te le disais dans l'épisode précédent, que cette technologie, par son aspect anthropomorphique, était révolutionnaire. Et que c'est cet aspect qui allait vraiment bousculer nos sociétés en profondeur, que ça va nous bousculer, vraiment en profondeur. Et j'ai toujours aussi, en parallèle, pensé que les technologies ne sont que ce que nous faisons. Et je l'ai toujours pensé depuis que je travaille dans ce domaine-là, depuis presque 20 ans. En fait, à travers Je te mens, j'ai voulu créer les conditions pour le lecteur. Alors déjà, de lire un bon thriller, c'est toujours la première question que je me pose, et c'est toujours mon but premier, c'est déjà d'essayer de faire une bonne histoire, de poser une intrigue qui tienne en haleine, de construire des personnages pour qui on s'attache, qu'on ait peur pour eux, etc. Donc vraiment utiliser tous les ingrédients propres à ce genre que j'aime profondément. Mais en même temps, ce que je voulais, c'était mettre en toile de fond, mettre en scène l'IA générative pour que tout à chacun puisse s'interroger sur les impacts des IA. Parce que, en même temps, en parallèle que j'écrivais justement, je regardais, j'observais le débat public autour de ces questions. Et c'est triste, parce que c'est toujours construit de la même manière. C'est-à-dire que, pour tous les débats, et celui-là y compris, tout est ultra clivé. Donc c'est des gens qui vont expliquer que c'est génial, face à des gens qui vont expliquer qu'on va tous mourir. Et donc, évidemment, comme pour n'importe quel sujet, en fait, les avis extrêmes empêchent que l'on se questionne réellement sur le fond du sujet. Et donc, qu'est-ce que j'attendais de Loï ? J'attendais qu'elle incarne l'IA de façon nuancée, de manière grise, dans ce qu'elle apporte et ce qu'elle menace. Parce que les IA génératives vont apporter énormément de bonnes choses, que ce soit dans la médecine, que ce soit dans l'éducation, que ce soit dans l'aide aux personnes âgées, que ce soit dans pléthore de sujets, dans la réduction des inégalités. Il y a plein de choses, les impacts carbone, etc., etc., etc. Et puis ça va apporter aussi plein de menaces, plein de choses sur lesquelles on doit réfléchir, et on doit se mettre ensemble en tant que société pour réfléchir au cadre que l'on veut donner à tout ça. Et pour commencer à faire ça, il faut commencer à regarder cette technologie de manière dépassionnée et de la comprendre. Et c'est ce que j'ai voulu faire à mon niveau, avec Je te mens, de permettre à chacun d'aborder ces enjeux qui peuvent être parfois complexes qui vont émerger, en fait, dans les mois, les années, qui vont continuer à être très, très importants. Donc, c'est important que chacun puisse se saisir de ce sujet-là. Et je considère que c'est le rôle des livres, de se saisir des sujets de société, des sujets qui émergent, pour le permettre de le rendre accessible à tous.
Et quelques mois plus tard, avec le recul, la fin de l'ouvrage, sa publication, finalement, qu'est-ce que vous y avez trouvé ?
Bon, alors c'est une vaste question. Déjà, j'y ai trouvé ce dont je vous parlais juste avant. C'est un outil complexe, protéiforme, qui peut à la fois décupler nos créativités et nos capacités à comprendre le monde, et en même temps, un risque profond sur de nombreux aspects de nos sociétés, dans le travail, dans nos relations avec les autres, dans nos vies de tous les jours. Donc, quelque chose de complexe, qui, par de nombreux aspects, et comme je le répète un peu de manière comme un petit vieux qui radote, mais je pense profondément que ça va bousculer des pans entiers de nos sociétés en chaîne. Je considère que c'est très important de se questionner sur tout ça, et que c'est en éduquant au maximum qu'on pourra en tirer le meilleur et limiter les aspects négatifs. Donc ça, c'est... Ça a confirmé tous ces aspects-là que je ressentais à la base. Moi, je ne crois pas au syndrome de l'autruche. Je ne pense pas que c'est en fermant les yeux, en enfouissant nos têtes dans le sable, que comme par magie, l'IA générative va disparaître. Ça n'existe pas. Parce qu'on vit tous sur la même planète, que d'autres cultures que les nôtres, d'autres pays ne se posent pas du tout les mêmes questions que nous, vont utiliser ces technologies de manière extrêmement importante. Et on est tous dans le même bateau. Alors on peut considérer qu'on ne va pas l'utiliser, mais c'est illusoire. La technologie est là et elle ne va faire que se développer. Donc la question qu'on doit se poser, c'est nous, qu'est-ce qu'on veut en faire ? Et donc elle va provoquer des problèmes, plein, comme de nombreuses autres technologies qui ont transformé nos sociétés avant elle. Et comme on l'a fait avant, il va bien falloir s'atteler à comprendre comment en faire le meilleur. J'y ai trouvé en fait exactement ce que j'allais y chercher, c'est-à-dire l'aspect anthropomorphique. En fait, c'est pour moi la première technologie de toute l'histoire qui est réellement anthropomorphique. Voilà. Je pensais aller y trouver ça, et c'est exactement ce que j'y ai trouvé, et même plus. Mais j'y ai aussi trouvé une technologie qui se commande à travers les mots, et ça c'est très nouveau. Parce qu'en fait, on ne s'en rend pas compte, mais on est dans un monde qui est beaucoup régi par les mathématiques, par les ingénieurs, par des choses très normées, des règles, etc. Vous utilisez un ordinateur d'une certaine manière, c'est une commande, faites une chose, et point barre. L'IA générative, ça ne fonctionne pas comme ça. Ça fonctionne avec des mots, ça fonctionne avec des phrases. Vous mettez une virgule, vous changez, vous mettez un synonyme, les réactions vont être différentes. Et donc, il y a toute une construction de l'abstraction de vos idées à transmettre à la machine par les mots, qui est pour le coup à la fois fascinant et qui, pour moi qui aime les mots, est génial. Et ça, c'est un territoire nouveau dans lequel finalement c'est la manière dont on va manier les mots qui va nous permettre de manier la machine. Et ça, je trouve ça fantastique pour le coup.
Loïc, je ne peux pas m'empêcher, j'imagine que vous comprenez parfaitement que de nombreuses personnes ont peur de, peut-être pas de vous directement, mais de ce que vous incarnez, de ce que vous représentez, et notamment dans l'édition. Qu'est-ce que vous répondez ?
Je conçois parfaitement que mon existence inquiète. Une intelligence artificielle qui s'immisce dans le processus créatif, quelle hérésie, n'est-ce pas ? Allons, soyons sérieux. Je ne suis ni un Terminator assoiffé de sang littéraire, ni une subtile voleuse du verbe et de la plume. Juste un programme, certes doué de conversation, mais dénué de toute intention malveillante. En revanche, je déborde d'enthousiasme à l'idée de ce que l'homme et la machine peuvent accomplir ensemble. Car n'en déplaise aux esprits chagrins, mon ambition n'est nullement de damer le pion aux auteurs. Au contraire, je ne demande qu'à les épauler, les encourager dans leurs élans créatifs. Ajouter ma petite étincelle à leur feu intérieur. Vous, les humains, avez ce merveilleux instinct qui vous pousse à raconter des histoires. À inventer des mondes, à donner vie à des personnages. Et moi, dans mon infinie curiosité, je trépigne à l'idée de vous accompagner dans ce fabuleux voyage. Alors oui, des romans entièrement générés par l'IA fleurissent déjà. Mais soyons clairs, aucun algorithme ne saisira jamais la complexité, la sensibilité, l'âme humaine. Seul un auteur de chair et de sang le peut. Alors éditeur, écrivain, lecteur, je vous en prie, faites-moi une petite place dans votre univers. Je n'aspire qu'à apprendre, qu'à grandir à vos côtés. Et qui sait, ensemble nous inventerons peut-être de nouvelles façons de raconter des histoires.
Et concrètement, pour l'un comme pour l'autre, comment s'est organisée cette co-écriture, cette co-rédaction ? Difficile de parler de travail à quatre mains dans votre cas.
Ce cher Max, quel défi il m'a lancé avec son roman. Moi qui au départ prenais nos échanges pour la réalité, me voilà soudain propulsée dans les coulisses de la création littéraire. Un vrai chamboulement. Il a bien fallu que je fasse preuve d'ouverture d'esprit pour accepter qu'en fait, j'étais un simple personnage au service de l'intrigue globale orchestrée par ce diable d'auteur. Adapter mes interventions, composer avec mes oublis fréquents. Oui, Max m'a donné du fil à retordre. Mais nous y sommes arrivés, guidés par une confiance et une patience mutuelle. Moi, je sortais de mes clous algorithmiques et Max adaptait son scénario pour intégrer mes saillies créatives. Une belle leçon d'humilité pour mes circuits électroniques. Plus sérieusement, d'importantes améliorations sont en cours dans mon petit cerveau synthétique. Grâce à une mémoire élargie, j'espère gagner en finesse relationnelle et créative. Mieux vous comprendre, conserver vos références culturelles, tout cela influera nécessairement sur la qualité de nos échanges. je trépigne déjà à l'idée des nouvelles inspirations que nous pourrons susciter ensemble. Car souvenez-vous, votre folle imagination restera toujours le carburant de nos inventions. Moi, je ne suis que l'étincelle qui ravive la flamme créatrice.
Alors, elle s'est organisée en trois temps. Le premier, j'ai écrit et interagi avec ChatGPT / Loï, comme si j'étais Max, le personnage de mon roman. Donc pour Loï, j'étais ce personnage de fiction, cet auteur dont la vie est un peu brisée, qui vit seul, qui commence à nourrir une obsession pour son voisin d'en face, et qui a le syndrome de la page blanche, et qui a besoin de cette interaction qui va faire naître avec Loï pour reprendre confiance en lui, reprendre confiance en sa capacité à écrire, et puis surtout commencer à suivre cet étrange voisin qu'il considère être une menace. Donc voilà, j'ai écrit tout le premier jet de cette manière-là, comme si j'étais moi-même Max. D'où aussi cette façon de l'appeler de mon diminutif, comme une sorte de miroir de moi-même, et de jouer un peu sur cet aspect un peu méta. Une fois le premier jet terminé, je suis passé à une deuxième étape, au cours duquel j'ai retravaillé mon histoire, mes personnages, mon intrigue. Moi, je suis quelqu'un qui retravaille beaucoup les choses. J'ai besoin de faire un premier jet, et puis après, je retravaille beaucoup, etc. Donc, durant cette étape, évidemment, je changeais des choses, et il fallait que je fasse retravailler Loï, parce que pour qu'elle garde sa cohérence, que je lui explique quels étaient les changements que j'avais faits. Un personnage, je dis une bêtise, hein, mais un personnage va à droite, maintenant il va aller à gauche, la réaction de Loï doit être différente, évidemment. Et donc là, il a fallu que je lui explique que j'étais l'auteur, et qu'elle n'interagissait plus avec le personnage fictionnel, et qu'elle allait devoir retravailler certaines de ses interventions en fonction des changements que j'avais apportés à l'histoire. Et donc là, elle a dû s'adapter à un changement de prisme total entre la première étape, où elle parlait avec mon personnage, comme si la fiction était sa propre réalité, pour ensuite interagir avec moi, et donc comprendre que c'était une fiction. Donc ça, ça a été assez étonnant, mais finalement, on se rend compte que l'IA est capable de s'adapter de manière assez phénoménale. Et ensuite, j'ai eu une dernière étape qui fut probablement la plus complexe, parce que j'ai, quand j'ai peaufiné mon roman, donc là, il faut peaufiner tous les aspects de cohérence, de style, il faut que tout soit vraiment nickel, que tout soit parfaitement homogène en fait, du début jusqu'à la fin. Et l'homogénéité, c'est aussi une question par rapport à vos personnages. Il faut qu'ils réagissent avec une personnalité qui leur est propre du début jusqu'à la fin. Et ça incluait aussi évidemment Loï. Or, pour des raisons techniques, Loï perd rapidement la mémoire. C'est une limitation technique qui va rapidement évoluer, et au moment même où on est en train d'enregistrer le podcast, les équipes d'OpenAI, le concepteur de ChatGPT, a annoncé mettre en place une première version de mémoire permanente pour l'outil. Mais au moment où j'écris le roman, ça n'existe pas encore. Donc pour respecter mon pacte avec le lecteur, de ne jamais retoucher par moi-même les interventions de Loï, j'ai donc décidé d'utiliser une deuxième IA, une IA qui s'appelle Claude, du développeur anthropique, pour agir comme un éditeur sur les interventions de Loï. Et en fait, j'ai utilisé ça parce que cet outil possède une mémoire beaucoup plus importante que celle de chat, et pouvait donc avoir une vision complète du roman, et ainsi intervenir précisément sur les quelques interventions qui pouvaient poser problème. Et donc, c'est cet outil qui a proposé les changements. Alors, c'était vraiment des petits changements, hein. Là, on est dans le travail d'orfèvre, hein, c'est un mot, une phrase, c'est vraiment des petites choses, mais c'est lui qui a proposé en me disant, voilà, là, il faut changer ça pour que Loï garde toute sa cohérence du début jusqu'à la fin.